Jules Michelet, La sorcière. Livre deuxième, chapitre 8. Possédée de Louviers, Madeleine Bavant, 1633-1647. Si Richelieu n'eût refusé l'enquête que demandait le père Joseph contre les 30 000 directeurs illuminés, on aurait d'étranges lumières sur l'intérieur des cloîtres, la vie des religieuses. Au défaut, l'histoire de Louviers, beaucoup plus instructive que celle d'Aix et de Loudun, nous montre que le directeur, quoiqu'il eût dans l'illuminisme un nouveau moyen de corruption, n'en employait pas moins les vieilles fraudes de sorcellerie, d'apparitions diaboliques, angéliques, etc. Des trois directeurs successifs du couvent de Louviers, en 30 ans, le premier, David, est illuminé et molinosiste, avant Molinos. Le second, Picard, agit par le diable et comme sorcier. Le troisième, Boulet, sous la figure d'ange. Voici le livre capital sur cette affaire. Histoire de Magdeleine Bavant, religieuse de Louviers, avec son interrogatoire, etc., 1652, Rouen. La date de ce livre explique la parfaite liberté avec laquelle il fut écrit. Pendant la Fronde, un prêtre courageux, un oratorien, ayant trouvé aux prisons de Rouen cette religieuse, osa écrire sous sa dictée l'histoire de sa vie. Madeleine, née à Rouen en 1607, fut orpheline à 9 ans. À 12, on la mit en apprentissage chez une lingère. Le confesseur de la maison, un franciscain, y était le maître absolu. Cette lingère, faisant des vêtements de religieuse, dépendait de l'église. Le moine faisait croire aux apprentis, enivrés sans doute par la belladone et autres breuvages de sorciers, qu'il les menait au sabbat, et les mariait au diable d'Agon. Il en possédait 3, et Madeleine, à 14 ans, fut la 4e. Elle était fort dévote, surtout à Saint-François. Un monastère de Saint-François venait d'être fondé à Louviers par une dame de Rouen, veuve du procureur Hennequin, pendue pour escroquerie. La dame voulait que cette œuvre aidât au salut de son mari. Elle consulta là-dessus un saint homme, le vieux prêtre David, qui dirigea la nouvelle fondation. Aux portes de la ville, dans les bois qui l'entourent, ce couvent, pauvre et sombre, né d'une si tragique origine, semblait un lieu d'austérité. David était connu par un livre bizarre et violent contre les abus qui salissaient les cloîtres, « Le fouet des paillards ». Toutefois, cet homme si sévère avait des idées fort étranges de la pureté. Il était adamite, prêchait la nudité qu'Adam eut dans son innocence. Docile à ses leçons, les religieuses du cloître de Louviers, pour dompter et humilier les novices, les rompre à l'obéissance, exigeaient, en été sans doute, que ces jeunes Èves revinssent à l'état de la mère commune. On les exerçait ainsi dans certains jardins réservés et à la chapelle même. Madeleine, qui à 16 ans avait obtenu d'être reçue comme novice, était trop fière, trop pure alors peut-être, pour subir cette vie étrange. Elle déplut et fut grondée pour avoir, à la communion, essayé de cacher son sein avec la nappe de l'autel. Elle ne dévoilait pas plus volontiers son âme, ne se confessait pas à la supérieure, chose ordinaire dans les couvents, et que les abbesses aimaient fort. Elle se confiait plutôt au vieux David, qui la sépara des autres. Lui-même se confiait à elle dans ses maladies. Il ne lui cacha point sa doctrine antérieure, celle du couvent, l'illuminisme, le corps ne peut souiller l'âme, il faut par le péché qui rend humble et guéri de l'orgueil, tuer le péché, etc. Les religieuses, imbues de ces doctrines, les pratiquant sans bruit entre elles, effrayèrent Madeleine de leur dépravation. Elle s'en éloigna, resta à part, dehors, obtint de devenir tourière. Elle avait 18 ans lorsque David mourut. Son grand âge ne lui avait guère permis d'aller loin avec Madeleine, mais le curé Picard, son successeur, la poursuivit avec furie. À la confession, il ne lui parlait que d'amour. Il la fit sacristine pour la voir seule à la chapelle. Il ne lui plaisait pas, mais les religieuses lui défendaient tout autre confesseur, craignant qu'elle ne divulguât leur petit mystère. Cela la livrait à Picard. Il l'attaqua malade, comme elle était presque mourante, et il l'attaqua par la peur, lui faisant croire que David lui avait transmis des formules diaboliques. Il l'attaqua enfin par la pitié, en faisant le malade lui-même, la priant de venir chez lui. Dès lors, il en fut maître, et il paraît qu'il lui troubla l'esprit des breuvages du sabbat. Elle en eut les illusions, crut y être enlevée avec lui, être hôtel victime, ce qui n'était que trop vrai. Mais Picard ne s'en tint pas au plaisir stérile du sabbat. Il brava le scandale et la rendit enceinte. Les religieuses, dont il savait les mœurs, le redoutaient. Elles dépendaient aussi de lui par l'intérêt. Son crédit, son activité, les aumônes et les dons qu'il attirait de toutes parts avaient enrichi leur couvent. Il leur bâtissait une grande église. On a vu par l'affaire de Loudun quelles étaient l'ambition, les rivalités de ces maisons. La jalousie avec laquelle elles voulaient se surpasser l'une l'autre. Picard, par la confiance des personnes riches, se trouvait élevé au rôle de bienfaiteur et second fondateur du couvent. « Mon cœur, disait-il à Madeleine, c'est moi qui bâtis cette superbe église. Après ma mort, tu verras des merveilles. N'y consens-tu pas ?» Ce seigneur ne se gênait guère. Il paya pour elle une dot, et, de sœur laid qu'elle était, il la fit religieuse pour que, n'étant plus tourière et vivant à l'intérieur, elle pût commodément accoucher ou avorter. Avec certaines drogues, certaines connaissances, les couvents étaient dispensés d'appeler les médecins. Madeleine dit qu'elle accoucha plusieurs fois. Elle ne dit point ce que devinrent les nouveau-nés. Picard, déjà âgé, craignait la légèreté de Madeleine, qu'elle ne convolât un matin à quelque autre confesseur, à qui elle dirait ses remords. Il prit un moyen exécrable pour se l'attacher sans retour. Il exigea d'elle un testament où elle promettait de mourir quand il mourrait et d'être où il serait. Grande terreur pour ce pauvre esprit. Devait-il avec lui l'entraîner dans sa fosse? Devait-il la mettre en enfer? Elle se crut à jamais perdue. Devenue sa propriété, son âme damnée, il en usait et en abusait pour toute chose. Il la prostituait dans un sabbat à quatre, avec son vicaire boulé et une autre femme. Il se servait d'elle pour gagner les autres religieuses, par un charme magique. Une hostie, trempée du sang de Madeleine, enterrée au jardin, devait leur troubler les sens et l'esprit. C'était justement l'année où Urbain Grandier fut brûlé. On ne parlait par toute la France que des diables de Loudun. Le pénitencier d'Évreux, qui avait été un des acteurs de cette scène, en rapportait en Normandie les terribles récits. Madeleine se sentit possédée, battue des diables. Un chat aux yeux de feu la poursuivait d'amour. Peu à peu, d'autres religieuses, par un mouvement contagieux, éprouvèrent des agitations bizarres, surnaturelles. Madeleine avait demandé secours à un capucin, puis à l'évêque d'Évreux. La supérieure, qui ne put l'ignorer, ne le regrettait pas, voyant la gloire et la richesse qu'une semblable affaire avait donnée au couvent de Loudun. Mais, pendant 6 années, l'évêque fit la sourde oreille, craignant sans doute Richelieu, qui essayait alors une réforme des cloîtres. Il voulait finir ses scandales. Ce ne fut guère qu'au moment de sa mort et de la mort de Louis XIII, dans la débâcle qui suivit sous la reine et sous Mazarin, que les prêtres se remirent aux œuvres surnaturelles, reprirent la guerre avec le diable. Picard était mort, et l'on craignait moins une affaire où cet homme dangereux eût pu en accuser bien d'autres. Pour combattre les visions de Madeleine, on chercha, on trouva une visionnaire. On fit entrer au couvent une certaine sœur Anne de la Nativité, sanguine et hystérique, aux besoins furieuses et demi-folles, jusqu'à croire ses propres mensonges. Le duel fut organisé comme entre dogues. Elle se lardait de calomnies. Anne voyait le diable tout nu à côté de Madeleine. Madeleine jurait qu'elle avait vu Anne au sabbat, avec la supérieure, la mère vicaire et la mère des novices. Rien de nouveau du reste, c'était un réchauffé des deux grands procès d'Aix et de Loudun. Elles avaient et suivaient les relations imprimées, nul esprit, nulle invention. L'accusatrice Anne et son diable Léviathan avaient l'appui du pénitencier d'Évreux, un des acteurs principaux de Loudun. Sur son avis, l'évêque d'Évreux ordonne de déterrer Picard pour que son corps, éloigné du couvent, en éloigne les diables. Madeleine, condamnée sans être entendue, doit être dégradée, visitée pour trouver sur elle la marque diabolique. On lui arrache le voile et la robe, la voilà nue, misérable jouet d'une indigne curiosité qui eût voulu fouiller jusqu'à son sang pour pouvoir la brûler. les religieuses ne se remirent à personne de cette cruelle visite qui était déjà un supplice. Ces vierges, converties en matrones, vérifièrent si elle était grosse, la rasèrent partout, et, de leurs aiguilles piquées plantées dans la chair palpitante, recherchèrent s'il y avait une place insensible, comme doit être le signe du diable. Partout, elles trouvèrent la douleur. Si elles n'eurent le bonheur de la prouver sorcière, du moins, elles jouirent des larmes et des cris. Mais la sœur Anne ne se tint pas contente. Sur la déclaration de son diable, l'évêque condamna Madeleine, que la visite justifiait, à un éternel in pace. Son départ, disait-on, calmerait le couvent. Il n'en fut pas ainsi. Le diable sévit encore plus. Une vingtaine de religieuses criaient, prophétisaient, se débattaient. Ce spectacle attirait la foule curieuse de Rouen, et de Paris même. Un jeune chirurgien de Paris, Yvelin, qui déjà avait vu la farce de Loudun, vint voir celle de Louviers. Il avait amené avec lui un magistrat fort clairvoyant, conseiller des aides à Rouen. Ils y mirent une attention persévérante, s'établirent à Louviers, étudièrent pendant 17 jours. Du premier jour, ils virent le compérage. Une conversation qu'ils avaient eue avec le pénitencier d'Évreux, en entrant à la ville, leur fut redite, comme chose révélée, par le diable de la sœur Anne. Chaque fois, ils vinrent avec la foule au jardin du couvent. La mise en scène était fort saisissante. Les ombres de la nuit, les torches, les lumières vacillantes et fumeuses produisaient des effets qu'on n'avait pas eus à Loudun. La méthode était simple, du reste. Une des possédées disait « On trouvera un charme à tel point du jardin ». On creusait et on le trouvait. Par malheur, l'ami d'Yvelin, le magistrat sceptique, ne bougeait des côtés de l'actrice principale, la sœur Anne. Au bord même d'un trou que l'on venait d'ouvrir, il serre sa main et, la rouvrant, y trouve le charme, un petit fil noir, qu'elle allait jeter dans la terre. Les exorcistes, pénitenciers, prêtres et capucins, qui étaient là, furent couverts de confusion. L'intrépide Yvelin, de son autorité, commença une enquête et vit le fond du fond. Sur 52 religieuses, il y en avait, dit-il, 6 possédées qui eussent mérité correction. 17 autres, les charmées, étaient des victimes, un troupeau de filles agitées du mal des cloîtres. Il le formule avec précision. Elles sont réglées, mais hystériques, gonflées d'orages à la matrice, lunatiques surtout, et dévoyées d'esprit. La contagion nerveuse les a perdues. La première chose à faire est de les séparer. Il examine ensuite avec une verve voltairienne les signes auxquels les prêtres reconnaissaient le caractère surnaturel des possédés. Elles prédisent, d'accord, mais ce qui n'arrive pas. Elles traduisent, d'accord, mais ne comprennent pas. Exemple, ex parte virginis veut dire le départ de la Vierge. Elles savent le grec devant le peuple de Louviers, mais ne le parlent plus devant les docteurs de Paris. Elles font des sauts, des tours, les plus faciles, montent à un gros tronc d'arbre où monterait un enfant de 3 ans. Bref, ce qu'elles font de terrible et vraiment contre la nature, c'est de dire des choses sales qu'un homme ne dirait jamais. Le chirurgien rendait grand service à l'humanité en leur ôtant le masque, car on poussait la chose, on allait faire d'autres victimes. Outre les charmes, on trouvait des papiers qu'on attribuait à David ou à Picard, sur lesquels telle ou telle personne était nommée sorcière, désignée à la mort. Chacun tremblait d'être nommé. De proche en proche, gagnait la terreur ecclésiastique. C'était déjà le temps pourri de Mazarin, le début de la faible Anne d'Autriche. Plus d'ordre, plus de gouvernement. Il n'y avait plus qu'un mot dans la langue, « la reine est si bonne ». Cette bonté donnait au clergé une chance pour dominer. L'autorité laïque étant enterrée avec Richelieu, évêques, prêtres et moines allaient régner. L'audace impie du magistrat et d'Yvelin compromettait ce doux espoir. Des voix gémissantes vinrent à la bonne reine, non celle des victimes, mais celle des fripons pris en flagrant délit. On s'en alla pleurer à la cour pour la religion outragée. Yvelin n'attendait pas ce coup. Il se croyait solide en cour, ayant depuis 10 ans un titre de chirurgien de la reine. Avant qu'il ne revînt de Louviers à Paris, on obtint de la faiblesse d'Anne d'Autriche d'autres experts, ceux qu'on voulait, un vieux sot en enfance, un Diafoirus de Rouen et son neveu, 2 clients du clergé. Ils ne manquèrent pas de trouver que l'affaire de Louviers était surnaturelle, au-dessus de tout art humain. Tout autre qu'Yvelin se fût découragé. Ceux de Rouen, qui étaient médecins, traiter de haut en bas ce chirurgien, ce barbier, ce frater. La cour ne le soutenait pas. Il s'obstina dans une brochure qui restera. Il accepte ce grand duel de la science contre le clergé, déclare, comme Villiers au XVIe siècle, que le vrai juge en ces choses n'est pas le prêtre, mais l'homme de science. À grand-peine, il trouva quelqu'un qui osa imprimer, mais personne qui voulut vendre. Alors ce jeune homme héroïque se fit en plein soleil distributeur du petit livre. Il se posta au lieu le plus passager de Paris, au Pont-Neuf, au pied d'Henri IV, donna son factum au passant. On trouvait à la fin le procès-verbal de la honteuse fraude, le magistrat prenant dans la main des diables femelles la pièce sans réplique qui constatait leur infamie. Revenons à la misérable Madeleine. Le pénitencier d'Evreux, son ennemi, qui l'avait fait piquer, en marquant la place aux aiguilles, l'emportait comme sa proie au fond de l'impace épiscopal de cette ville. Sous une galerie souterraine plongeait une cave, sous la cave une basse fosse où la créature humaine fut mise dans les ténèbres humides. Ses terribles compagnes, comptant qu'elle allait crever là, n'avaient pas même eu la charité de lui donner un peu de linge pour panser son ulcère. Elle en souffrait, et de douleur et de malpropreté, couchée dans son ordure. La nuit perpétuelle était troublée d'un va-et-vient inquiétant de rats voraces, redoutés aux prisons, sujets à manger des nez, des oreilles. Mais l'horreur de tout cela n'égalait pas encore celle que lui donnait son tyran, le pénitencier. Il venait chaque jour dans la cave au-dessus, parler au trou de l'inpatché, menacer, commander, et la confesser malgré elle, lui faire dire ceci et cela contre d'autres personnes. Elle ne mangeait plus. Il craignit qu'elle n'expirât, la tira un moment de l'inpatché, la mit dans la cave supérieure, puis, furieux du factum d'Yvelin, il la remit dans son égout d'en bas. La lumière entrevue, un peu d'espoir saisi, et perdu tout à coup, cela combla son désespoir. L'ulcère s'était fermé, et elle avait plus de force. Elle fut prise au cœur d'un furieux désir de la mort. Elle avalait des araignées, vomissait seulement, n'en mourait pas. Elle pila du verre, l'avala, en vain. Ayant trouvé un méchant fer coupant, elle travailla à se couper la gorge, ne put. Puis, prit d'un endroit mou le ventre et s'enfonça le fer dans les entrailles. 4 heures durant, elle poussa, tourna, saigna. Rien ne lui réussit. Cette plaie même se ferma bientôt. Pour comble, la vie si odieuse lui revenait plus forte, la mort du cœur n'y faisait rien. Elle redevint une femme, hélas, et désirable encore, une tentation pour ses geôliers, valets brutaux de l'évêché, qui, malgré l'horreur de ce lieu, l'infection et l'état de la malheureuse, venaient se jouer d'elle, se croyaient tout permis sur la sorcière. Un ange la secourut, dit-elle, elle se défendit, et des hommes, et des rats, mais elle ne se défendit pas d'elle-même. La prison déprave l'esprit. Elle rêvait le diable, l'appelait à la visiter, implorait le retour des joies honteuses, atroces dont il la navrait à Louviers. Il ne daignait plus revenir. La puissance des songes était finie en elle, l'essence dépravée, mais éteint. D'autant plus revint-elle au désir du suicide. Un geôlier lui avait donné une drogue pour détruire les rats du cachot. Elle allait l'avaler, un ange l'arrêta, un ange ou un démon, qui la réservait pour le crime. Tombée dès lors à l'état le plus vil, à un indicible néant de lâcheté, de servilité, elle signa des listes interminables de crimes qu'elle n'avait pas faits. Valait-elle la peine qu'on la brûlât? Plusieurs y renonçaient. L'implacable pénitencier seul y pensait encore. Il offrit de l'argent à un sorcier d'Evreux qu'on tenait en prison s'il voulait témoigner pour faire mourir Madeleine. Mais on pouvait désormais se servir d'elle pour un bien autre usage, en faire un faux témoin, un instrument de calomnie. Toutes les fois qu'on voulait perdre un homme, on la traînait à Louviers, à Évreux, ombre maudite d'une morte qui ne vivait plus que pour faire des morts. On la mena ainsi pour tuer de sa langue un pauvre homme nommé Duval. Le pénitencier lui dicta, elle répéta docilement. Il lui dit à quel signe elle reconnaîtrait Duval qu'elle n'avait jamais vu. Elle le reconnut et dit l'avoir vu au sabbat. Par elle, il fut brûlé. Elle avoue cet horrible crime et frémit de penser qu'elle en répondra devant Dieu. Elle tomba dans un tel mépris qu'on ne daigna plus la garder. Les portes restaient grandes ouvertes. Parfois, elle en avait les clés. Où aurait-elle été, devenue un objet d'horreur? Le monde, dès lors, la repoussait, la vomissait. Son seul monde était son cachot. Sous l'anarchie de Mazarin et de sa bonne dame, les parlements restaient la seule autorité. Celui de Rouen, jusque-là le plus favorable au clergé, s'indigna cependant de l'arrogance avec laquelle il procédait, régnait, brûlait. Une simple décision d'évêque avait fait déterrer Picard, jeté à la voirie. Maintenant, on passait au vicaire Boulet et on lui faisait son procès. Le parlement écouta la plainte des parents de Picard et condamna l'évêque d'Évreux à le replacer à ses frais au tombeau de Louviers. Il fit venir Boulet, se chargea du procès, et à cette occasion tira enfin d'Évreux la misérable Madeleine et la prit aussi à Rouen. On craignait fort qu'il ne fît comparaître et le chirurgien Yvelin et le magistrat qui avait pris en flagrant délit la fraude des religieuses. On courut à Paris. Le fripon Mazarin protégea les fripons. Toute l'affaire fut appelée au conseil du roi, tribunal indulgent qui n'avait point d'yeux, point d'oreilles, et dont la charge était d'enterrer, d'étouffer, de faire la nuit en toute chose de justice. En même temps, des prêtres doucereux au cachot de Rouen consolèrent Madeleine, la confessèrent, lui enjoignirent pour pénitence de demander pardon à ses persécutrices, les religieuses de Louviers. Dès lors, quoi qu'il advînt, on ne put plus faire témoigner contre elle Madeleine ainsi liée. Triomphe du clergé. Le capucin, esprit de Beauroger, un des fourbes exorcistes, a chanté ce triomphe dans sa piété affligée. Burlesque monument de sottise, où il accuse, sans s'en apercevoir, les gens qu'il croit défendre. On a vu un peu plus haut le beau texte du capucin où il donne pour leçon des anges les maximes honteuses qui eussent effrayé Molinos. La fronde fut, je l'ai dit, une révolution d'honnêteté. Les sots n'ont vu que la forme, le ridicule. Le fond, très grave, fut une réaction morale. En août 1647, au premier souffle libre, le Parlement passa outre, trancha le nœud. Il ordonna, 1. Qu'on détruisît la Sodome de Louviers, que les filles dispersées fussent remises à leurs parents. 2. Que désormais les évêques de la province envoyassent 4 fois par an des confesseurs extraordinaires aux maisons de religieuses pour rechercher si ces abus immondes ne se renouvelaient point. Cependant, il fallait une consolation au clergé. On lui donna les os de Picard à brûler et le corps vivant de Boulet qui, ayant fait amende honorable à la cathédrale, fut traîné sur la claie au marché aux poissons où il fut dévoré des flammes 21 août 1647. Madeleine, ou plutôt son cadavre, resta aux prisons de Rouen.